grand angle.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, votre grand angle hebdo, l'actualité de ces 7 derniers jours, le sommaire. Les autorités syriennes et les djihadistes français dirigés par Omar Diaby sont parvenus à un accord mercredi pour mettre fin à leur combat dans le nord-ouest de la Syrie. Dans votre émission, Anne Judicelli, experte sur les questions de géopolitique et de sécurité. La protestation d'une partie de la jeunesse au Maroc, regard dans votre grand angle hebdo sur la série de mesures destinées à encourager les jeunes à s'engager en politique et à accompagner les réformes sociales. Une évolution positive en perspective dans les relations entre la France et l'Algérie après les propos du nouveau ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez. Le président du groupe d'amitié France-Algérie, le sénateur PS Rachid Temal, nous dira pourquoi un retour à l'apaisement est nécessaire entre les deux pays. 7 minutes et une onde de choc international. Le cambriolage express au musée du Louvre dimanche dernier met en lumière des failles liées à la sécurité du musée le plus visité au monde. Nous y reviendrons avec Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Des violences ont opposé les forces gouvernementales syriennes à des djihadistes français, des personnes retranchées dans un camp du nord-ouest de la Syrie. Les deux parties sont parvenues à un accord pour mettre fin à leur combat. Accord qui prévoit un cessez-le-feu entre les djihadistes retranchés dans un camp de la région de Harem, dans la province d'Idleb, près de la frontière turque, et les forces gouvernementales. Ces combats étaient les premiers annoncés par les autorités avec des djihadistes étrangers depuis leur prise de pouvoir en décembre dernier, après avoir renversé Bachar el-Assad. Décryptage avec Anne Judicelli, experte sur les questions de géopolitique et de sécurité globale. Elle souligne que le président Ahmed al-Sharré marque des points dans ce dossier.
C'est pas le pouvoir central qui va déterminer comment gérer les poches de résistance, on va les appeler comme ça, djihadistes, mais véritablement il y a un travail de terrain qui est fait, et je dirais que probablement pour le moment, en tout cas sa force, c'est qu'il sait parler la même langue que ceux avec qui il s'adresse. Il en connaît les mécaniques, donc c'est une force. Néanmoins, ça reste quand même fragile. Il peut y avoir des instrumentalisations régionales, une volonté de déstabiliser ce régime en utilisant certains de ces éléments djihadistes pour empêcher que ce pouvoir puisse s'imposer, y compris dans les différents gouvernorats. Donc, je dirais, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ait totalement réussi ses objectifs, c'est clair. En plus, la géopolitique ne l'y aide pas, l'instabilité régionale non plus. Mais en tout cas, il marque des points pour le moment, et cela reste fragile, puisque son pouvoir peut aussi être mis en cause au niveau interne. L'homme reste quand même sous pression, avec des objectifs très forts, très ambitieux, mais en tout cas, il y travaille et pour le moment, il marque des points.
Anne Judicelli, experte sur les questions de géopolitique et de sécurité globale. C'est un mouvement de protestation inédit au Maroc. Le mouvement Gen Z 212 a eu un impact important dans le pays. Après le discours du roi qui a mis l'accent sur l'importance de l'éducation et de la santé, le gouvernement a proposé une série de mesures destinées à encourager les jeunes à s'engager en politique et à accompagner les réformes sociales, cela sur fond de contestation menée par la jeunesse depuis la fin septembre. Mohamed Ezouak, journaliste fondateur de Yabiladi.
Le Conseil des ministres ce dimanche a d'une certaine manière entériné ces orientations royales et ces revendications de la rue. Des rues marocaines avec un projet de loi de finances qui est très orienté, qui était très attendu évidemment, et qui est très orienté sur le social, donc la santé et l'éducation qui bénéficient d'une hausse substantielle du budget. Je crois que c'est 14 milliards supplémentaires, donc c'est une mobilisation de financement assez massif, une sorte de mobilisation au niveau de enfin une mobilisation d'urgence pour répondre à l'urgence. Il y a aussi une volonté d'accélérer les choses avec des marchés qui sont attribués directement pour éviter justement les problèmes et les dysfonctionnements des appels d'offres. Donc il y a vraiment une volonté d'aller vite et de répondre rapidement à cette urgence de la rue, mais aussi des orientations royales qui datent effectivement dernièrement de l'ouverture parlementaire, mais aussi du discours du trône fin juillet, où le roi avait parlé de ce Maroc à deux vitesses qu'il désirait justement réparer d'une certaine manière, ou raccrocher le Maroc qui est un peu en retard, notamment dans le monde rural ou dans certaines villes, avec ce Maroc qui se développe, ce Maroc émergent.
Le gouvernement marocain, hein, qui, vous le soulignez, met en avant un effort budgétaire pour 2026 de 140 milliards de dirhams. Oui, cela représente 12,9 milliards d'euros. Une somme consacrée à la santé et à l'éducation, avec la création de plusieurs milliers de postes dans ces deux secteurs, 27 000 selon le gouvernement. Et il y a un autre élément important, c'est le fait d'encourager les plus jeunes à s'engager en politique, notamment les jeunes de moins de 35 ans. Comment cela va se traduire? Qu'est-ce qui va être mis en place pour cela?
Alors effectivement, ça aussi, c'est un des points de réforme du code électoral qui pourrait répondre à une mobilisation, à une implication des jeunes dans la politique, et bon, pas que les jeunes, puisque, mais l'idée, c'est de débloquer un verrou pour que les jeunes puissent se présenter aux élections sans pour autant avoir un mandat électoral d'un parti politique. Donc les jeunes de moins de 35 ans pourront se présenter aux élections sans avoir un mandat donc d'un parti politique, en s'impliquant en politique et représenter justement peut-être cette jeunesse qui, rappelons-le, participe très peu aux élections.
Mohamed Ezouak, fondateur de Yabiladi. Une évolution positive en perspective dans les relations entre la France et l'Algérie. Il faudra évidemment qu'on ait de nouveau la reprise du flux des laissez-passer. Je vis mis attelé, selon les mots du nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Le ministre pour qui il faudra un moment qu'on reprenne le dialogue avec les Algériens sur les questions de sécurité et d'échange d'informations. Laurent Nunez, pour qui la relation entre Paris et Alger dépend largement du Quai d'Orsay. Le président du groupe d'amitié France-Algérie, le sénateur PS Rachid Temal, estime qu'un retour à l'apaisement est nécessaire entre les deux pays.
Je crois que le nouveau ministre de l'Intérieur a raison d'essayer de redonner de la perspective. Mais je le dis, je crois qu'aujourd'hui, s'il revient aux deux chefs d'État, et en l'espèce le président de la République française, c'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir. Et moi, je l'ai dit il y a plusieurs mois de cela, je crois qu'aujourd'hui, seul un échange direct entre les deux président pourra faire avancer la situation. Je note également que le Premier ministre, qui a œuvré précédemment sur les questions de défense, peut être également une porte d'entrée intéressante. Ne descendons pas, je crois, avec tout le respect que j'ai pour les différents ministres, je pense qu'à un moment donné, d'abord, il y a une question d'État à État. Et je crois que c'est personne de mieux que le président de la République, voire le Premier ministre, mais surtout le président de la République, peut jouer ce rôle-là. Donc je crois que c'est à Emmanuel Macron aujourd'hui, avec son homologue algérien, de retrouver les fils de la discussion.
Le sénateur, président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat, Rachid Temal. La stupeur après le cambriolage dimanche dernier au musée du Louvre. Cela a duré 7 minutes. Un commando de 4 hommes a volé en plein jour dans la matinée des joyaux d'une valeur jugée inestimable, dont un diadème impérial. Auprès de 2000 diamants, les cambrioleurs se sont introduits dans la galerie d'Apollon du musée. Ils abritent notamment les joyaux de la couronne de France. Ils ont brisé les fenêtres de la salle à l'aide de disqueuses après s'être hissés depuis l'extérieur sur une nacelle. Alors comment un tel vol a pu être commis dans le musée le plus visité au monde? Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police.
On peut se poser la question comment ça se fait qu'ils ont pu approcher aussi près du Louvre, mais vous savez, Paris est depuis de nombreuses années en travaux. Il y a des chantiers absolument partout, des palissades absolument partout, des chantiers qui n'avancent pas. Donc, on ne prête plus attention, finalement, assez attention quand vous avez des chantiers, des travaux et des individus qui avaient des gilets siglés avec la mairie de Paris. Donc, on a pu effectivement penser, mais en tous les cas, vous savez, il y a eu une réaction courageuse d'un témoin qui a tout de suite vu ce manège et a vu que c'était suspect, a prévenu les services de police. Donc, les policiers sont arrivés assez rapidement. C'est pour ça que les personnes, dans la panique, ont quitté précipitamment les lieux. S'ils n'avaient pas été détectés, je ne pense pas qu'ils auraient fait toutes ces erreurs et abandonné du matériel, parce qu'ils ont dû entendre les sirènes de police se rapprocher d'eux, et c'est pour ça qu'ils sont partis rapidement avec des puissants scooters.
Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police, après ce cambriolage inédit au musée du Louvre. Fin de votre grand angle hebdo. Excellente suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle.